Bonsoir à tous. La pire tragédie dans la Manche depuis l'envolée des traversées vers l'Angleterre. Plus de 20 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur arrive sur place et à Londres, Boris Johnson convoque une réunion d'urgence. Le gouvernement qui fait face à la cinquième vague de Covid prend de nouvelles mesures pour, dit-il, sauver Noël. Passe sanitaire durci, durée des tests raccourcie, rappel vaccinal élargi. Dans l'actualité encore, de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol visent Nicolas Hulot. Il se défend avant même la diffusion de l'enquête. Stéphane Richard présente sa démission au conseil d'administration d'Orange en ce moment même après sa condamnation en appel dans l'affaire Tapis Crédit Lyonnais. 8 heures seulement après sa nomination, la première ministre de Suède démissionne. On vous dira pourquoi. Et puis la consécration pour une jeune chef lyonnaise qui remporte à seulement 24 ans le Bocuse d'Or. Et au téléphone, Sonne Fabienne.
Eh bien, ce soir, on parle de la ruée vers l'ouest. Figurez-vous, les résidences secondaires, les plateformes Airbnb et autres plateformes d'ailleurs qui font grimper les prix et empêchent les locaux d'habiter là où ils travaillent. Certaines villes ont pris des mesures draconiennes. Jusqu'où faut-il aller sans se tirer une balle dans le pied et faire fuir les touristes? Ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. On le sait, dans la Manche, les périlleuses traversées de migrants ne cessent d'augmenter ces derniers mois. Et aujourd'hui donc, ce drame, le naufrage d'une embarcation fait plus de 20 morts, bilan encore très provisoire, le pire en tout cas depuis l'envolée il y a 3 ans. Face au verrouillage croissant du port de Calais et du tunnel sous la Manche, l'envolée de ces traversées à bateau, le Premier ministre parle de tragédie, le ministre de l'Intérieur est attendu sur place dans les minutes qui viennent et les recherches se poursuivent à l'Ismaro.
2 hélicoptères et 3 navires sont toujours en pleine opération. Ils ramènent les corps et les survivants vers la côte en ce moment. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que 20 personnes sont décédées. C'est la police nationale qui le confirme. Et le bilan va probablement évoluer. Le vice-président de la région, Franck Dersin, avance le chiffre de 24 morts. Et la préfecture maritime parle de plusieurs personnes encore inconscientes, en hypothermie. Certaines sont déjà hospitalisées et d'autres sont donc encore en train d'être secourues. Le drame s'est déroulé au large entre Calais et Dunkerque. L'embarcation se trouvait au niveau du passage des bateaux de commerce. Elle a été victime d'un naufrage. C'est un pêcheur qui a donné l'alerte en début d'après-midi en voyant des corps flotter dans l'eau. Le Premier ministre Jean Castex a réagi il y a quelques minutes sur Twitter. « Mes pensées vont aux nombreux disparus et blessés », écrit-il.
Alice Marot, France Bleu Nord, l'émotion est grande dans la région. La maire de Calais regrette un drame. Alerte depuis plusieurs semaines sur des réseaux de passeurs très actifs. Ils ont leurs responsabilités, dit-elle, comme les associations qui viennent en aide aux migrants. C'est aussi leur message. Mais pour le cofondateur Utopia 56, Yann Manzi, la responsabilité est partagée.
On est tous totalement abattus. Ça fait des années qu'on est sur le littoral à aider ces populations exilées qui cherchent un futur et un avenir. Et ça fait des années qu'on dénonce le non-accueil de la France et de l'Europe, tous ces traitements administratifs qui poussent ces gens à prendre de plus en plus de risques. Donc oui, les réseaux de passeurs sont criminels, mais oui, la France et l'Europe sont aussi criminels avec tous les dispositifs de non-accueil qu'ils ont mis en place depuis des décennies. Nous dénonçons ça depuis des années, nous demandons des routes sûres depuis des années avec des grosses ONG, que ce soit en Méditerranée ou dans les Hauts-de-France. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? De la sécurité et rien d'autre. Donc on est tous totalement abattus par la réalité. On s'y attendait, on savait que ça allait arriver. Et puis voilà, le drame arrive.
Les réactions du cofondateur d'Utopia 56, les traversées de la Manche ont été multipliées par 10 entre 2019 et 2021. Au moins 17 000 passages depuis le début de l'année. Et c'est aussi un sujet de brouille, on le sait, entre la France et l'Angleterre. Boris Johnson vient d'ailleurs de convoquer une réunion d'urgence sur la situation. Laura Calmus est à Londres.
C'est une tragédie. Les mots de Gérald Darmanin sont également repris par Nathalie Elphick, députée conservatrice à Douvres. Elle a également déclaré que pour sauver des vies, il fallait d'abord empêcher les bateaux d'entrer dans l'eau. Le ton est donné par Londres, qui ces derniers mois pointe du doigt les autorités françaises, les accusant de ne pas en faire assez pour arrêter les départs. Selon un commentateur de la chaîne Sky News, la police britannique aurait même proposé à la France de patrouiller sur ses plages, une offre déclinée par les Français. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a convoqué une réunion de crise aujourd'hui pour comprendre ce qu'il s'est passé et sans doute accélérer les choses pour faire voter un projet de loi controversé du ministre de l'Intérieur. Elle estime que si un migrant arrive illégalement sur le sol britannique, il risque 4 ans de prison et n'aura pas la possibilité de recevoir d'aide de l'État. Londres, Laura Calmus, France Inter.
La police française qui parle désormais de 27 victimes dans le naufrage de cette embarcation dans la Manche.
Nicolas Hulot est donc de nouveau visé par des accusations d'agression sexuelle et de viol.
Et de nouveau, avant même la diffusion de l'enquête prévue demain soir sur France 2 dans Envoyé spécial, l'ancien ministre et militant écologiste prend les devants et s'invite à la télévision pour démentir. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
C'était ce matin sur BFM TV.
Oui, une demi-heure d'entretien sur un reportage dont Nicolas Hulot précise bien qu'il n'a pas pu le voir. Très peu de personnes en réalité ont eu accès à cette enquête d'envoyé spécial. Tout ce que dit savoir l'ancien animateur, c'est que ce sont 4 ou 5 femmes qui y témoignent de faits dont, selon leur récit, les plus anciens datent de 1989. Tout au fil de l'interview, Nicolas Hulot dément fermement leurs accusations.
Ces accusations sont purement mensongères. Aucune des femmes, soit dans ma vie privée, soit dans ma vie d'engagement, soit dans ma vie d'Ushuaïa, soit dans ma vie professionnelle, aucune, celles qui peuvent témoigner, aucune n'a été approchée.
Au cours du même entretien ce matin, Nicolas Hulot s'est dit écœuré et a annoncé se retirer définitivement de la vie publique.
Nicolas Hulot qui avait agi de la même manière en 2018, devançant la publication d'une enquête du magazine Hebdo.
Oui, là aussi Nicolas Hulot avait choisi un long entretien télévisé en direct. L'Hebdo s'apprêtait à révéler une plainte pour viol déposée en 2008 par Pascal Mitterrand, la petite fille de l'ancien président. Les faits avaient eu lieu, selon elle, en 97 et étaient donc prescrits au moment de cette plainte. L'affaire a été classée, mais classée ne veut pas dire blanchir, précise Michel Dufranc, il est l'avocat de Pascal Mitterrand.
Une affaire est prescrite, ça ne veut pas dire que les faits qui étaient l'objet de la poursuite éventuelle n'existent pas, ça ne veut pas dire non plus que ces faits ne pourraient pas revêtir une qualification pénale, ça veut simplement dire qu'on ne peut plus poursuivre parce que le temps pour la poursuite a expiré, c'est tout ce que ça veut dire.
Alors précisons que Pascal Mitterrand ne fait pas partie des femmes qui s'expriment dans le reportage diffusé demain, ce sont donc au moins 4 nouveaux témoignages que France 2 s'apprête à révéler.
Ariane Grissel et Nicolas Hulot qui annoncent donc, vous l'avez dit, quitter définitivement la vie publique pour protéger ses proches et sa fondation, qui prend acte se refusant à commenter une affaire qui touche, dit-elle, à la question de la libération de la parole des femmes. Il acte donc un retrait total de la vie publique, mais Faustine Calmel, dans les faits, ces apparitions étaient de plus en plus rares ou parfois compliquées.
La dernière en date aux Assises du journalisme à Tours fin septembre, l'ancien ministre est invité à une table ronde. Plusieurs militantes et militants d'associations féministes montent alors sur scène, pancartes à bout de bras. On peut y lire ces slogans, ras le viol, comment faire pour que les hommes cessent de violer. Et Nicolas Hulot se défend au micro.
Vous avez des personnes ici qui viennent porter, je ne sais pas si c'est des insinuations ou des accusations. Je veux simplement vous dire une petite chose. C'est que vous venez dans une manifestation où j'étais invité, perturber cette manifestation pour faire référence à une affaire qui remonte à 25 ans. Et voilà ce que le procureur de l'époque a dit. Les faits dénoncés en tout état de cause n'apparaissent en aucun cas établis.
Pour expliquer aujourd'hui son retrait de la vie publique, Nicolas Hulot se dit écœuré, estime que son engagement est trop lourd payé. Son entourage poursuit, il en avait marre, il ne pouvait plus vivre avec cette pression permanente. Il sait, disent encore ses proches, que la rumeur persiste et qu'il ne s'en dépêtrera jamais.
Nicolas Hulot, qui fait donc l'objet de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol et qui dément, c'est aussi à lire sur franceinter.fr. Le gouvernement prépare donc de nouvelles mesures pour sauver Noël. On en est là désormais, écoutez le porte-parole du gouvernement. L'épidémie de Covid augmente très vite. Et même si la vaccination parvient à contenir la hausse des hospitalisations, les perspectives pour la fin de l'année ne sont pas bonnes. Gabriel Attal, tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres.
L'enjeu, c'est de protéger les Français face à la vague en consolidant nos acquis et en renforçant notre organisation de manière à sauver les fêtes de fin d'année et à traverser l'hiver le mieux possible. C'est sur la base de ces objectifs que le Conseil de défense et de sécurité nationale s'est réuni ce matin avec un cap clair. Ne pas avoir à en revenir à des mesures de jauge et encore moins à des mesures de fermeture, de couvre-feu ou de confinement dans notre pays. Des orientations claires ont été actées ce matin dans 3 directions. D'abord, le renforcement des mesures barrières et du port du masque en intérieur comme en extérieur, l'aération. Ensuite, le renforcement du pass sanitaire pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. C'est notre logique, vous le savez, depuis l'allocution du président de la République le 12 juillet dernier. Enfin, l'accélération de la campagne de rappel vaccinal.
Gabriel Attal, tout à l'heure, c'est donc le retour de la conférence de presse du jeudi. Demain, le ministre de la Santé au pupitre pour resserrer les boulons. Et on le sait déjà, le pass sanitaire va être renforcé. La durée de validité des tests raccourcie toutes les 24 heures et plus toutes les 72 heures pour mettre la pression sur les non vaccinés. Et puis le rappel vaccinal bientôt étendu à tous les adultes et plus tôt, 5 mois après la deuxième piqûre, au lieu de 6, informations France Inter. La ministre du Travail, de son côté, réunira les partenaires sociaux dans la matinée de demain. Et rendez-vous est pris vendredi pour les syndicats de l'éducation nationale au ministère. L'école inquiète. On est à plus de 6000 classes fermées, encore loin du pic à 11 000 en avril dernier. Mais l'incidence des 5-11 ans augmente. Et les infirmiers chargés de tester les élèves sont débordés. C'est le reportage France Bleu Armorique de Sarah Mansoura.
Dès le premier cas positif, la course contre la montre s'enclenche.
Moi, j'ai été prévenue vers 10h et il a fallu venir à 10h.
Et là, le stress monte en flèche, selon Armel Petitpas de la Fédération des parents d'élèves à l'AIE.
J'ai eu plusieurs parents au téléphone pour qui c'était compliqué. On sentait un vrai stress, en fait, hein. Par rapport aussi aux employeurs, d'avoir la bonne attestation au bon moment. Oui, non, c'est compliqué.
Compliqué parce qu'il faut bien sûr garder les enfants et donc solliciter le compagnon, la compagne, les grands-parents, mais aussi parce qu'il faut dépister les élèves. Là, ce sont les infirmières libérales de la commune qui doivent très vite répondre présentes, comme Géraldine Daniel.
Le téléphone sonne beaucoup. En fait, le temps d'être chez nos patients, on a 2, 3, des fois 4 appels pour appeler après les gens. Donc c'est vrai qu'on passe pas mal de temps au téléphone là en ce moment.
Sa collègue Céline Gestin acquiesce. Oui, il faut encaisser ce surplus.
Quand les classes se ferment, on a beaucoup d'appels en même temps et puis donc faut gérer. On est 2 à travailler tous les jours et quelquefois celle qui travaille pas revient aider ses collègues. À chaque vague, on a toujours une bonne quinzaine de jours où l'emploi du temps est compliqué à gérer.
Parce que les élèves sont aussi testés à J+7 avant de pouvoir reprendre les cours. Une période d'incertitude pour tous, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cas à apparaître entre-temps.
Le reportage France Bleu près de Rennes de Sarah Mansoura. Gabriel Attal qui dénonce encore tout à l'heure cette minorité récalcitrante et violente, dit-il, qui prend en otage la Guadeloupe. La mobilisation continue là-bas comme en Martinique. Jérôme Val, vous êtes sur place. Bonsoir. Vous êtes retourné, Jérôme, dans le quartier Sainte-Thérèse où la situation a dégénéré la nuit dernière et où l'on craint une nouvelle nuit de violence.
Et la principale artère qui traverse ce quartier à l'est de Fort-de-France porte encore les stigmates des violences de la nuit, des carcasses de voitures brûlées en travers de la chaussée, des tas de cendres noires, certains encore fumants, des centaines de capsules de gaz lacrymogène ou de cartouches de flashball sur le bitume, des vitrines brisées dans une station-service. Lors de notre passage tout à l'heure, des agents étaient en train de déblayer ces encombrants afin de rétablir la circulation. Les échauffourées qui ont duré jusqu'à l'aube ont fait 9 blessés, 5 gendarmes et 4 policiers, en partie victime de tirs d'armes à feu. Alors les habitants avec qui on a pu échanger nous ont confié craindre en effet une nouvelle escalade de la nuit prochaine. À l'image d'ailleurs de ce qui se passe dans le reste de l'île, les barrages routiers en partie suspendus cette nuit ont été rétablis au petit matin. Ils sont même plus nombreux aujourd'hui, comme au Marin dans le sud de l'île. Une petite dizaine de communes sont concernées. Réunies dans la matinée, l'intersyndicale a appelé à durcir le mouvement. Au même moment, la préfecture de Martinique a annoncé la réquisition de 7 stations-service pour permettre l'approvisionnement des véhicules prioritaires.
Jérôme Val avec Sandrine Malouin, en direct du quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France, en Martinique.
À peine nommée, la première ministre de Suède démissionne.
Moins de 8 heures après sa nomination. C'est assurément le mandat le plus court dans l'histoire du pays. Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
Et c'est le vote du budget qui fait tout basculer.
Oui, elle était la première femme au poste de premier ministre dans son pays. Magdalena Andersson est aussi désormais la détentrice d'un record, le mandat le plus court de l'histoire de la Suède. En fait, si on veut être très précis, elle n'a pas vraiment eu le temps de prendre ses fonctions. Elle devait présenter son gouvernement vendredi. Comment expliquer cette démission? Magdalena Andersson était depuis 7 ans ministre des Finances. En devenant Premier ministre, elle remplaçait en fait son collègue, son patron, le démissionnaire Stefan Löfven. Le budget qui était soumis au vote cet après-midi, c'était le sien. Elle l'avait concocté, mais elle a perdu au dernier moment, et ça a été une très mauvaise surprise, le soutien d'un allié, les centristes, qui trouvaient finalement son budget trop à gauche. Le budget qui a été voté aujourd'hui, c'est donc celui porté par la droite et l'extrême droite. Le gouvernement était censé piloter le pays en se basant sur le budget décidé par ses ennemis politiques. C'en était trop pour les Verts, partenaires de coalition de Magdalena Andersson. Ils ont claqué la porte. La première ministre a été forcée de démissionner. Elle espère maintenant prendre pour de bon la tête du pays à l'issue d'un nouveau vote.
Julie Pietri pour une histoire de coalition compliquée. Autre histoire de coalition en Allemagne. Olaf Scholz sera donc bien le futur chancelier allemand. Accord trouvé pour former ce gouvernement avec les Verts et les libéraux. Un libéral sera nommé aux finances, deux écologistes à des ministères clés, le ministère du climat et celui des affaires étrangères. C'est sans doute l'ultime rebondissement de l'arbitrage tapis Crédit Lyonnais. Stéphane Richard, condamné en appel dans cet arbitrage controversé, présente sa démission ce soir de son poste à la tête d'Orange, conseil d'administration en ce moment même. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Stéphane Richard, qui avait été relaxé en première instance, condamné donc en appel à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Son poste à la tête de l'opérateur télécom était bien menacé.
Oui, il remet ce soir son mandat entre les mains des administrateurs d'Orange au conseil d'accepter ou non sa démission. L'État, premier actionnaire à plus de 20%, y est en position de force. Et selon nos informations au sein du gouvernement, les réflexions sur la succession de Stéphane Richard sont déjà lancées. Elle interviendra, cette succession, au bout d'une période transitoire pendant laquelle l'actuel PDG continuera de gérer les affaires courantes. Lui trouver un successeur, et même deux, puisqu'il était déjà question de dissocier les fonctions de président et de directeur général, cela ne s'annonce pas si simple, car il s'agit de remplacer un patron qui a marqué le paysage pendant près de 11 ans. C'est un groupe en crise profonde qu'il trouve en prenant ses fonctions. L'ancien France Télécom en proie à une vague de suicides qui en dit long sur la violence des changements menés en interne avant lui. Transformer l'opérateur historique en entreprise rentable, ce n'était pas rien. C'est sans doute la plus grande réussite de Stéphane Richard, même si tous ses choix stratégiques comme les investissements en Espagne ou encore la création de la filiale Orange Bank n'ont pas toujours rencontré le succès espéré.
Pierre, merci beaucoup Fabien Cazot. Stéphane Richard, vous en parliez, qui sera l'invité de France Inter à 7h50 dans la matinale au micro de Léa Salamé. Sa condamnation à lui n'aura pas de conséquences professionnelles. Karim Benzema, un an de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende dans l'affaire de la sextape. Il va faire appel et va continuer à jouer en bleu au sein de l'équipe de France de foot, assure le président de la Fédération Française de Football. Les conducteurs vont pouvoir continuer à se partager les informations sur la position des radars. Le fabricant du système d'aide à la navigation Coyote s'inquiétait d'un article du Code de la route interdisant la pratique, notamment sur les routes départementales. Le Conseil constitutionnel a donc tranché. Première réaction de Pierre Lagache.
C'est pas une victoire pour la sécurité routière, hein, cette décision, puisque elle va permettre à des conducteurs qui ont souvent un comportement déviant, hein, par rapport au comportement sur la route, de continuer à échapper au contrôle. La grande majorité des conducteurs ont un comportement responsable, mais ces outils qui permettent finalement de savoir où ont lieu les contrôles permettent bien évidemment à ceux qui n'ont pas envie d'être contrôlés d'y échapper. C'est une décision qui est interrogeante, voilà, par rapport à l'objectif réel de sécurité routière dans ce pays. En Suisse, hein, la décision a été prise d'interdire ce type de signalement. Vous savez, là, encore une fois, la première des libertés, c'est celle d'être en sécurité.
Pierre Lagache, qui est le vice-président de la Ligue contre les violences routières et qui réagissait donc à cette décision du Conseil constitutionnel qui permet aux conducteurs de pouvoir continuer à se partager les informations sur la position des radars. Et puis, soyez prévenus, les voitures neuves seront bientôt équipées d'un limitateur de vitesse. Il enverra un signal au conducteur s'il dépasse la limitation. Associé même à une caméra embarquée pouvant lire les panneaux et le GPS, ce dispositif sera capable de freiner en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Réglementation européenne adoptée la semaine dernière qui entrera en vigueur à partir du mois de juillet prochain. Et comme on dit, le talent n'attend pas le nombre des années. Naïs Pierrollet, à seulement 24 ans, devient la première femme à remporter le Bocuse d'Or, un symbole fort pour la cuisine française et sa capitale gastronomique, Lyon, où officie la chef. Une victoire forcément savoureuse.
Je le voulais, je me suis inscrite pour l'avoir. J'étais sûre de rien, mais par contre, j'ai tout fait pour que ça marche et ça a l'air d'avoir payé. C'est une épreuve de 4 heures de cuisine et on devait tous travailler 3 ingrédients, le brochet, la laitue et l'oignon. Ces 3 ingrédients devaient être déclinés de 2 façons, une façon amuse-bouche et on devait faire un plateau, donc épreuve typique du Bocuse d'Or. Je pense que ce qui a fait la différence, c'était notre travail en cuisine, très millimétré et très rigoureux. Alors après, ça devait être bon puisque ça leur a plu. Ça me donne de l'énergie puisque j'ai envie de me battre pour ça et de trouver que être une femme ou un homme dans ce genre de concours, il n'y a pas forcément de différence. Il faut qu'on s'en rende compte. Je suis aussi la plus jeune à avoir été sélectionnée et je suis plus fière d'être la plus jeune que d'être la première femme, si on veut. Ça montre qu'en tant que jeune, on est capable de faire des choses, qu'on est capable de construire quelque chose et qu'on a aussi notre mot à dire. La plus grande victoire, c'est de pouvoir casser un peu les idées reçues qu'on avait sur ce concours et prouver que tout le monde peut avoir sa chance à condition de travailler et de se donner les moyens.
Évidemment que la jeunesse a son mot à dire. Naïs Pirol a été au téléphone de Claire Chaudière et elle va représenter la France en mars prochain au Bocuse Europe.
Eh ben, on lui souhaite, non, je sais pas si on doit souhaiter bonne chance.
Bon courage.
Bon courage. Non, ça c'est terrible, on l'embrasse. Allez, on merci l'embrasse. Beaucoup Hélène Philly, bien sûr, à demain. Dans un instant, pour nous, c'est le téléphone sonne. On parle de cette ruée vers l'ouest, les résidences secondaires et les logements de location pour quelques jours qui rendent les habitants l'habitat local désormais trop cher. Un œil sur le ciel avant peut-être.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Sébastien Léas, on commence pas par l'ouest, mais par la Méditerranée, nuit pluvieuse.
Oui, après s'être attardé sur le Languedoc-Roussillon, on rappelle que l'Aude est toujours en vigilance orange jusqu'à ce soir. Les plus fortes pluies localement orageuses vont glisser vers la Provence et la Corse entre ce soir et cette nuit. Demain matin, la pluie sera encore au programme sur la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, se propageant également vers le sud du Midi Toulousain et l'est des Pyrénées l'après-midi. Autour du Golfe du Lion, en Provence et en Corse, les nuages seront prédominants, parfois menaçants demain, lâchant des averses qui pourront même être orageuses. Le temps sera plus calme sur les régions du nord, mais le soleil se fera bien discret. On verra quelques éclaircies en Bourgogne-Franche-Comté le matin et entre le Finistère, le Cotentin et les Flandres l'après-midi. Et puis entre le Morbihan, la Vendée et les Hauts-de-France, quelques averses pourront se faire remarquer, mais elles seront généralement faibles et de courte durée.
Et il va encore faire frais.
Oui, cette nuit, les températures passeront régulièrement sous la barre du 0 degré sur les régions de la moitié nord. Prévoyez moins 3 degrés à Nancy et Nevers, moins 1 degré à Dijon et Orléans et 0 degré à Rouen. L'après-midi, les maximales seront aussi sous les valeurs de saison. 3 à 12 degrés en général, 12 à 17 degrés autour de la Méditerranée. On attend 3 degrés à Strasbourg, 8 degrés à Paris et Grenoble, 10 degrés à Rennes, Aurillac et Montauban et 15 degrés à Marseille et à Calvi.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.